des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour Priscille, comment allez-vous ?
Bien, et vous-même ?
Merci.
Oui ?
Toujours bien quand j'arrive dans ce studio.
Ben, je vous remercie. Alors nous allons parler aujourd'hui d'une œuvre, laquelle ?
Alors, j'ai choisi de vous parler d'un grand roman, dont la grandeur n'a d'égal que sa longueur, puisqu'il fait 1287 pages.
Bien.
Et pourtant j'ai eu un grand plaisir à le lire et je n'ai pas décroché.
Jusqu'au bout ?
Jusqu'au bout.
Alors.
Jusqu'au bout. En précipitant l'allure, puisque je savais que j'avais rendez-vous avec vous, puisque il m'a retenu jusqu'à tard hier soir, mais bon, voilà.
Alors, est-ce qu'on peut connaître le titre de ce livre ?
Oui, à la rigueur, je vais vous le révéler. Il s'agit de « Dans la main du diable » d'Anne-Marie Gara, qui est une romancière déjà confirmée, qui a reçu le prix Femina en 1992 avec Aden aux éditions de Seuil. Quant à son roman « Dans la main du diable », il a paru en 2006 chez Actes Sud et il a été fort opportunément repris par la collection de poche Babel, ce qui le met à la portée des bourses moyennes. Son prix est de 12,50 €, ce qui n'est pas très cher payé eu égard au nombre de pages, au poids du papier et à la qualité de l'écriture.
Alors, qu'est-ce qu'Anne-Marie Gara fait dans la main du diable ?
Eh bien, il faudrait d'abord savoir qui est le diable. Alors, on va le découvrir peu à peu, selon un processus savamment dosé. On commencera à avoir des doutes vers la page 300, on sera presque sûr vers la page 600, et on aura confirmation définitive aux environs de la page 1000, disons.
Donc du suspense digne d'un roman policier ?
Non, ce n'est pas un roman policier. Non, on ne peut pas dire ça, non.
Alors,
même s'il y a du suspense.
Avec 1200 pages, c'est plutôt un grande fresque historique ?
Ah là, vous brûlez. Bien que je récuse cette définition, à mes yeux, un peu trop fermée. En fait, c'est à la fois un roman policier, un roman d'espionnage, une grande fresque, évidemment, un roman sentimental, un roman passionnel, un roman de société, oui. En fait, c'est tout ensemble. C'est un composite, ce qu'on appelle un composite en physique. Vous savez, ce matériau qui est formé de plusieurs éléments distincts, dont l'association confère à leur ensemble, c'est la définition de Larousse, des propriétés qu'aucun n'a pris séparément.
Donc un grand roman comme autrefois ?
Oui, il est vrai qu'il renoue avec le roman, je ne dirais pas traditionnel, parce que justement, de faire ça aujourd'hui, c'est plutôt novateur. Mmh. C'est un grand roman romanesque.
Alors, dites-nous.
Alors,
dites-nous un peu.
Il est évident que c'est difficile de vous résumer 1287 pages en 1200 secondes. Je me borne à l'essentiel, et même l'essentiel prendra un tout petit peu de temps. Bon, l'héroïne s'appelle Gabrielle. Elle est née en France, mais elle est d'origine hongroise, car sa famille a émigré à Paris. Elle habite près du Jardin des Plantes, en compagnie de sa tante et d'une vieille servante au grand cœur qu'il a élevée. Voilà qu'un jour, elle apprend par un fonctionnaire du ministère de la Guerre, qui s'appelle Terrier, chacun fait ce qu'il peut, le décès de son cousin, prénommé Indre, dont elle était follement amoureuse et dont je crois même qu'elle a été passagèrement la maîtresse. Indre est parti, sans qu'on sache pourquoi, à l'autre bout du monde, et il y est mort, semble-t-il, en Birmanie anglaise. Et on a pour seule preuve de sa mort, si c'est une preuve, une malle, ou plutôt une caisse, que le ministère de la guerre fait livrer à Gabrielle, qui contient des hardes, et surtout une paire de lunettes qu'elle croit reconnaître comme appartenant à son cousin défunt ou soi-disant défunt. Mais cette disparition incertaine, finalement, on n'a pas de preuves réelles, lui semble suspecte. Pourquoi est-ce que Indre est mort ? Qu'est-ce qu'il est allé faire si loin ? Dans quelles circonstances est-il mort ? De quoi est-il mort ? Est-ce que seulement il est mort ? Impossible de faire son deuil, bien sûr, dans ces conditions. Alors Gabrielle entreprend, avec l'aide du nommé Terrier, de conduire une recherche. Là, on frôle le roman policier, effectivement, qu'il va l'amener successivement dans une famille de grands bourgeois, comme institutrice d'une petite fille à l'abandon. Elle y va parce qu'elle pense trouver, sur l'indication de Terrier, des indices qui la mettront sur la voie. On la voit au milieu d'un tournage cinématographique. On la voit dans la banlieue un peu triste qui entoure Paris à l'époque. Elle va dans les milieux scientifiques de l'Institut. Elle y va même beaucoup chez les activistes de l'armée. Et même, elle finira, enfin on la verra vers la fin, sur le Grand des Canals à Venise. Alors j'ai oublié de dire, évidemment...
C'est à quelle époque, tout ça?
Justement, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est une omission fatale, j'en conviens, que ça se passe en 1913, tout au long de ce que Jules Romain appelait la montée des périls. Enfin, cette montée des périls-là, il y en a eu d'autres. Donc au bord de la guerre, dans une période indécise où les peurs, les grandes peurs s'exaltent et les passions aussi, les passions se déchaînent, se radicalisent. On est follement patriote, on déteste les Boches, etc. etc. Et le récit va se terminer en août 1914 avec la mobilisation générale qui, évidemment, va mettre en l'air tous les destins et avec les premiers morts dans la boue des Ardennes.
Alors, est-ce qu'Anne-Marie Gara s'étend sur l'état de la société et sur les événements politiques de l'époque, ou c'est seulement, elle s'attache seulement à quelques parcours individuels?
Non, l'histoire est présente, c'est sûr. La société aussi, la société est même omniprésente. On voit passer la bande à Bonneau, les anarchistes révolutionnaires, la bande à Bonneau qui passe en jugement, justement, en 1913. On voit les luttes syndicales, on parle de l'assassinat de Gaston Calmette, le directeur du Figaro, par Madame Caillot, la femme du ministre des Finances. Heureusement, on n'assassine plus les directeurs du Figaro, sinon mon ami Francis Morel serait en danger. Alors, je l'aime tendrement. On voit le début de l'émancipation féminine, avec les premières femmes d'industrie, les premières capitaines d'industrie, avec l'adoption de la jupe culotte, qui est un symbole. Le cinéma, qui est en adolescence, en préadolescence, qu'on est encore muet, mais on commence à tourner des grands films. On annonce la mort de Bertillon, l'inventeur de l'anthropométrie. On assiste au dernier concert de Saint-Saëns, son dernier, etc., etc. Mais cette histoire-là, cette société-là, ne sont pas racontés, sont seulement évoqués. L'histoire est évoquée, la société, comment dirais-je, perfuse tout le roman, bien sûr. Et naturellement, vous avez compris, tel que je vous connais, c'est une grande affaire d'amour, structure l'action, au même titre que l'enquête, ça va de pair en fait, que l'enquête sur la mort d'Indre et que les secrets terrifiants que notre héroïne dévoile peu à peu.
Alors, est-ce qu'Anne-Marie Gara arrive à faire tenir tout ça sur 1200 pages?
Oui, dit comme ça, ça fait un peu pêle-mêle. Bon, la réponse, c'est que oui. Et comment? Par la virtuosité du récit. Elle me fait penser, Anne-Marie Gara, à une championne de patinage qui exécute brillamment les figures les plus périlleuses et pour qui le cœur bat, le public a le cœur battant, parce qu'on craint à tout moment que cet équilibre fragile va se rompre. Alors il est vrai qu'elle côtoie dangereusement le roman feuilleton, et que ces textes, ce que j'appelle ces textes de liaison, c'est-à-dire quand l'action, quand il faut enchaîner, bien qu'elle procède à de très longs plans-séquences, comme on dit au cinéma, au long desquels elle ne quitte pas son héroïne, surtout son héroïne, mais il y a quand même des moments où il faut faire un enchaînement. Et là, les textes sont un petit peu faibles, ou même un peu conventionnels. Mais au dernier moment, elle se redresse d'un coup de rein, cette championne, elle repart pour un triple salto. Alors il arrive aussi que l'intrigue s'essouffle, je ne fais que répéter ce que je viens de dire, mais elle lui rend vigueur grâce à la magie de l'écriture, qui est une écriture fine, coulante, aisée et je dirais multiforme, avec de très rares points faibles, comme l'emploi un peu insidieux et pécamineux, je dirais, du mot « avéré ». Mais bon, là, j'exagère, hein. Je vais dans les détails les plus pointilleux. Sur 1287 pages, c'est très bien que je n'ai relevé que deux ou trois impropriétés.
Donc ça vous a plu dans l'ensemble? Vous n'êtes pas trop ennuyé à lire ce livre?
Pas du tout. On est pris, on ne quitte pas ce roman. Anne-Marie Gara pratique magistralement tous les registres, en fait. Et en particulier deux d'entre eux, qui sont souvent abandonnés dans le roman contemporain, l'évocation des lieux et les portraits. Vous savez que les auteurs modernes et les éditeurs modernes se défendent des descriptions. Eh bien, elle n'a pas peur. Elle réussit ce qu'on pourrait appeler des tableaux de genre très très achevés. Un repas, un grand apparat d'une famille, le ménage de printemps, une grande maison. La capitaine d'industrie, Mathilde, qui est la mater, qui terrorise son entourage, son mari, qui est un aristocrate brillant et désabusé, qui passe sa vie à ramener de l'autre bout du monde, des quatre coins du monde, des trophées architecturaux ou picturaux. Sans oublier l'héroïne principale, Gabrielle, qui est belle, acharnée, pleine de secrets, pour les autres comme pour elle-même. Tout ça grouille de vie. Donc on revient effectivement à la grande fresque que vous évoquiez.
Mais à quel point est-ce que ça vous a plu? Je vous connais, Jean, vous êtes quand même difficile.
Oh, pas tellement, non. Enfin, j'ai des réserves, effectivement. J'ai des réserves que j'ai effectivement peine à énoncer, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour ce roman, sinon pour son auteur que je n'ai pas l'honneur de connaître. Je dirais qu'il est très, très beau, très rassurant pour les autres d'être ambitieux. Et Madame Gara a déployé dans ce roman une grande ambition dont on peut la féliciter. Elle fait penser, par l'ampleur de ses vues, au premier tome des Hommes de bonne volonté de Jules Romain, l'unanimisme en moins, ou bien à d'autres d'ailleurs, mais plus sûrement à Zola, qui était aussi un grand portraitiste, un grand paysagiste, qu'elle cite fréquemment et dont elle va jusqu'à adopter parfois le rythme et le phrasé. Je pourrais en fournir les preuves, mais ça tournerait à l'analyse pédagogique. Avec un clin d'œil même vers Jean Anouilh, pour certains dialogues, pour certains symboles, les pans qu'elle fait paraître dans la scène de cinéma, les pans d'une pièce bien connue de Jean Anouilh. Et elle a d'ailleurs baptisé Madame Anouilh, pour qu'on ne s'y trompe pas, un des personnages secondaires.
Ah tiens.
C'est une virtuose.
Oui. Qui a beaucoup lu. Est-ce que vous voudriez bien nous lire quelques extraits de ce roman? Comme toujours, vous nous mettez l'eau à la bouche. On a envie d'entendre un peu ce que ça donne.
Alors, je vais tomber sur les descriptions, parce que c'est ça qui spécifie. Non, il n'y a pas que des descriptions. Lorsqu'ils descendirent du tramway Porte d'Italie, il était presque midi. La rangée de marronniers plantés pour aligner la nouvelle avenue, dont les branches dépouillées de feuilles griffaient le ciel gris, ne suffisait pas à rendre aimable la sinistre perspective qui quittait Paris vers la barrière d'Octroi. Ils avaient longé les immeubles populaires et entrevu les rues adjacentes aux maisons basses et sordides, ce quartier misérable dont le fleuron était cette cour des miracles de la cité Jeanne d'Arc, de sinistre réputation, où logeait la foule des ouvriers, ceux de la raffinerie du sucre Zay et de la chocolaterie Lombard, aussi bien ceux de la biscuiterie Bertin Gallet du quai de la gare, des usines Panhard et Levasseur, avenue d'Ivry, des abattoirs de Villejuif ou des ateliers de famille et de charrettes et des fabriques de chaussures, une population misérable battant le pavé devant les épiceries et boutiques, les innombrables caves de vin et liqueurs et restaurants, salons, noces et banquets, un paysage urbain désolé auquel la grande ville tournait le dos. De l'avenue partaient en étoiles de larges rues pavées entre des palissades et des restes de prairies, de jardins potagers et de friches, la route filant vers Choisy et tirant son morne horizon. Là finissait le faubourg, mais ne commençait pas pour autant la campagne. C'était une zone enchevêtrée de chantiers, et de terrains vagues, au milieu desquels d'anciennes masures, des murs de fermes ou de relais de poste finissaient de se délabrer, s'écoulant jusque sur la chaussée, un quartier promis au projet d'assainissement, toujours repoussé, à une urbanisation improbable, mélange bâtard de constructions provisoires et d'immeubles inachevés. Je vais vous en lire un autre. Voilà l'évocation courte d'un Noël familial à la campagne. À travers les vitres que le froid étoilait de glace, elles regardèrent dehors. Un peu de neige était tombée dans la nuit, ensevelissant la grande prairie d'où émergeaient les bouquets hérissés d'herbes givrées, et au loin, l'orée des bois s'encapuchonnait de blanc comme une grande carte postale pailletée. Mais Millie était trop impatiente pour jouir longtemps de cette vue. Sur le lit était étendue sa robe de fête en velours bleu, mais elle voulut absolument descendre tout de suite, voir ses souliers qu'elle avait tenus à disposer sur le bord de la cheminée avant de monter se coucher. Vous voyez qu'elle a de la patte. Elle a de la patte, cette dame. Et troisième passage, si vous le permettez, cette description, cette évocation de l'appartement de deux vieilles filles, qui sont d'ailleurs des personnages très subalternes dans le récit, mais ce passage a une valeur symbolique du talent avec lequel Anne-Marie Gara s'est reconstitué une atmosphère et donc une époque. Sophie n'était allée chez elle, les deux personnes en question, qu'une fois jeune mariée, et elle se souvenait avec un frisson des deux sœurs de deuil vêtues, comme des béguines, la tête prise dans l'étroit bonnet de soie noire à tuyaux, la recevant dans le salon empire aux housses grisâtres, enlevée devant elle pour lui offrir un siège, du reps violacé des murs, du globe sous lequel fanait la couronne de l'éphémère mariée et des angelots terrifiants qui encadraient la pendule de marbre rose arrêtée. Rien de plus mortuaire que ce salon, que cette salle à manger noire, éclairée à la lampe pigeon dès 3 heures de l'après-midi, tant l'étroitesse de la rue, la pente des toits confisquait la lumière, et même les miettes de boudoir sur la nappe empesée aux plis jaunis, le sirop d'orgeat, le cristal terne sentait le moisi, le rance enfermement des boîtes de fer, des buffets, des tiroirs de la maison. Elle portait les doux noms de Bertille et Angélique. Elle terrorisait une vieille servante, sourde aux jupes douteuses, abrutie de travail. Elle vivotait à l'écart du monde, sans lire d'autre journal que le bulletin paroissial, sans ouvrir jamais un livre, d'une ignorance phénoménale de tout, qu'il y eût des continents, des océans, des villes, des êtres, des animaux, autres que ceux dont leur rue leur offrait l'exemple, des événements ou des aventures. Hypochondriaque au dernier degré, se soignant elle-même en se servant à la pharmacie d'autorité, avalant n'importe quelle potion selon une science infuse acquise pour l'une d'entre elles dans son bref mariage. Elles idolâtraient Charles, leur petit frère.
C'est drôle tout ça. Merci Jean Mauduit pour ces lectures.
D'où viennent les friches industrielles.
J'ai compris. Merci Jean Mauduit pour ces lectures.
Merci à vous.
Je rappelle donc à nos auditeurs qu'ils peuvent entendre plusieurs de vos chroniques, de vos points de vue sur ces femmes écrivains que vous aimez lire. Je vais citer pêle-mêle Madame de Lafayette, Amélie Nothomb, Simone de Beauvoir, Annie Ernaux, Valentine Gobi, Moa Heder. Vous voyez donc que les siècles se mélangent.
Oui, ils continueront de se mélanger.
Ben, j'espère
d'ailleurs,
bien.
Nous allons faire un retour dans l'histoire prochainement. Je n'ai pas encore choisi ma cible, mais ça viendra très vite.
Par quelle autre femme écrivain allez-vous être séduit ?
Oui, je ne sais pas encore. J'ai plusieurs candidates, si je puis dire. Je déplore un peu la pauvreté, non pas en contenu, car tout ce dont je vous parle me paraît à tort ou raison remarquable, mais en nombre. Il n'y a pas suffisamment, à mon gré, de romancières françaises. Ou alors... elles ne trouvent pas leur place à l'aventure du libraire, je ne sais pas. En tout cas, je voudrais... Il y a sûrement des vocations cachées ou déjà accomplies. J'aimerais beaucoup.
Femmes auditrices, à vos plumes.
Absolument, absolument.
À bientôt, je me dis.
À bientôt.